Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
Hello, my friend.
This is Watchman Alarm Phone.
Hello, my friend. This is Alarm Phone.
How are you, my friend?
I hear
How
you.
Many
can
are
you hear me?
Hello, my friend. This
okay,
is
can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm Phone.
Freedom, I don't meet them. Where's your freedom?
Can you give me your GPS position?
Okay, I call you back.
What kind of boat
what
are you on?
What do you see around you?
Can you give me your GPS position?
How many are you on the boat?
I hear you.
Can you hear me?
Okay, I call you back.
I will call you back.
Let's try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant.
147 personnes par an.
34 personnes par semaine.
Près de 5 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans la 9e émission de Chronique amère, où on parle des politiques des frontières maritimes de l'Europe, et toujours depuis Alarm Phone. Pour celles et ceux d'entre nous qui font des permanences téléphoniques, nous rencontrons les histoires de migration presque uniquement du point de vue de la traversée. Lors de ces permanences, on est en contact avec des personnes quelques minutes, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça signifie qu'on croise très brièvement ces personnes, à un moment précis de leur vie et des nôtres. Ça signifie aussi qu'en règle générale, nos contacts prennent fin une fois que les personnes ne sont plus en mer, parce qu'elles ont été refoulées ou interceptées, parce qu'elles ont fait naufrage, parce qu'elles ont choisi de faire demi-tour, parce qu'elles ont été secourues et arrivent dans ces ports dits « sûrs », en Italie, en Espagne, en Grèce, à Malte, en Angleterre. Souvent, on se demande ce qu'il se passe pour les personnes après. Parfois, on ne se pose pas la question. Toujours, on se réjouit que les personnes arrivent où elles voulaient arriver. Si on ne se pose pas la question de l'après, c'est peut-être parce qu'on ne le partagera pas, parce que le téléphone sonne de nouveau, qu'on doit se concentrer sur un nouveau bateau. Autant dire que le travail de permanence téléphonique ne donne qu'un aperçu très étroit, tout petit, des longues histoires et grands parcours de l'exil.
Je m'appelle Djabi Aboubakar, j'ai 20 ans. Je suis parti quand j'avais 15 ans, j'ai traversé quand j'avais 16 ans. Je suis parti de la Guinée en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, l'Italie et l'Allemagne en premier temps. Je suis arrivé en France.
Et toi, par exemple, sur le bateau où tu étais, il y avait beaucoup d'enfants, enfin, il y avait beaucoup de jeunes comme toi.
Bon, on ne peut pas connaître l'âge exact des personnes parce que non seulement nous, on n'a pas les mêmes cultures. En Afrique, on se dit demander l'âge de quelqu'un, c'est un manque de respect.
Est-ce que tu dirais que ça a fait une différence, toi, que tu sois plus jeune ou pour toi, le fait que tu aies 15 ans, ça n'a pas changé grand-chose dans ton histoire de traversée et de route?
Moi, je pense que ça n'a pas changé grand-chose parce que c'est le courage sur cette traversée, je pense. Quand on arrive, il y a des jeunes qui sont plus courageux, qui sont responsables ou qui prennent la responsabilité pendant la traversée. Parce que parfois, c'est les jeunes qui se disent, ouais, moi, je suis jeune, vous, votre vie est faite. Mais pour moi, je n'ai rien fait. Si on meurt ici, c'est moi qui est perdant. C'est pourquoi les jeunes prennent beaucoup le courage et disent, si vous voulez qu'on meure, on meurt tous.
En préparant l'émission précédente et en travaillant sur les interviews, on a été étonnés d'entendre des récits qui auraient pu être des récits d'adultes. Il nous a fallu poser des questions spécifiques pour avoir des réponses sur la condition d'enfant. Et en laissant le micro ouvert, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de leurs arrivées, que les jeunes ou anciens enfants avaient envie de parler.
C'est pas juste que ça y est, hop, 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 tu es arrivé à l'Europe, que c'est fini. En fait, c'est pas fini. Le chemin est encore long, quoi.
C'est pas seulement la traversée, parce que la traversée, certes, c'est dur aussi. Le plus dur reste aussi encore derrière aussi, parce que derrière, on n'a pas la langue française. Derrière, c'est pas chez nous, donc c'est très, très, très difficile.
On est arrivé à l'Italie. On savait même pas que c'était l'Italie. On est arrivé à l'Europe, parce qu'on dit l'Europe, à part ça. On ne connaît pas d'autres pays et on est arrivé à l'Italie, mais le problème, on est resté là-bas quelques jours, ils nous ont donné quoi manger, ils nous ont aidé, ils nous ont donné des vêtements, ils nous ont donné la nourriture, et ils ont été sympas et tout ça, mais au bout de quelques jours, ils ont dit c'est bon, vous pouvez partir. Ils ont pris des empreintes et il a dit mais vous voulez partir, ils nous ont donné un papier, ils ont dit vous avez le droit de partir où vous voulez. Donc nous, on ne savait même pas parler anglais, mes parents, ils ne savaient pas. On n'avait pas de l'argent, on marchait, on ne savait pas où aller, on dormait dehors, on ne savait pas où dormir. On prenait le train, on partait à Paris, on revenait à l'Italie, on revenait à Rome, on venait à n'importe où, on ne savait même pas où s'arrêter. Et par hasard qu'on est arrivé à Marseille, le train s'est arrêté, on est descendu à Marseille et à ce moment-là, mon père il a dit « bon, je vais essayer de chercher quelqu'un de kurde qui peut nous aider ». On est resté ici mais sans papier pendant 2 ans, mais vu que tu es sans papier, travailler c'est dur. Et il faut se nourrir, il faut avoir une maison, il fait froid, c'était l'hiver, donc on ne savait pas quoi faire. On a eu de l'aide, certes grâce à des Kurdes qui nous ont aidés, c'est vrai, ils ont fait un peu travailler mon père en noir. Et surtout, tu ne sais pas parler le français, tu vois les regards des autres, tu ne sais même pas quoi dire, tu ne sais pas quoi faire. Il fallait s'intégrer à l'école.
Pendant de longues années, c'est dur. Et après, doucement, doucement, on s'adapte, on commence à avoir des amis qui te comprend, qui reste avec toi, qui comprend d'où tu viens et tout ça.
C'est pas juste la traversée ou quoi.
Dans les interviews qu'on vient d'entendre, on a été frappé par la manière dont Aboubakar, Abdoul et Sevgi ont hérité de rôles d'adultes lors de la traversée, mais aussi dès l'arrivée des problèmes de leurs parents, de leurs problèmes d'argent, de travail et de langue. Bien sûr, ça paraît évident que les enfants sont impactés ou transformés par les questions matérielles des adultes autour d'elles et autour d'eux. Mais que se passe-t-il quand le racisme et le colonialisme s'en mêlent? Comment transforment-ils les rapports entre adultes et enfants? Comment bouleversent-ils le statut même d'enfant et celui d'adulte?
Alors si on a bien suivi l'histoire, l'Europe coloniale a déplacé, volé, maltraité des milliers d'enfants, en invoquant si besoin des bienfaits civilisationnels supérieurs. Si bien qu'elle a réussi à se faire passer pour une terre d'accueil. Aujourd'hui, quand les enfants de ces mêmes pays colonisés cherchent à rejoindre l'Europe, elle les abandonne, elle les laisse mourir ou leur fait vivre des situations injustifiables. Puis à l'arrivée, l'Europe maltraite encore.
L'Europe a menti, a trahi l'Afrique et puis manigance aussi les dirigeants africains. Moi, je pense que si on nous disait toute la vérité ou bien si on avait toutes les réalités de l'Europe, personne n'y penserait de faire cette traversée. Les gens dorment dans la rue, les accueils ne sont pas comme ça, les mineurs, il faudra identifier, il faudra prouver et... Votre minorité, elle se dit c'est un pays de droit, les mineurs sont abandonnés, un pays de droit, les femmes enceintes avec les enfants sont abandonnées. Je pense que c'est décevant l'accueil. Je n'ai pas vu cette France, je n'ai pas vu cette Europe, de l'Allemagne, de l'Italie jusqu'ici, on ne voit pas l'accueil, on était abandonné à notre sort. On se dit quand on arrive, les mineurs devraient aller à l'école. Moi, j'ai fait les 3 mois, moi, je m'ai inscrit à l'école.
Est-ce que tu avais l'impression justement d'être traité comme un jeune, comme un mineur, donc quelqu'un qui avait besoin de protection?
Non, pas du tout. Je pense que qu'on soit mineur ou majeur, ils considèrent tout le monde comme majeur. Pour eux, on vient ici, nous sommes des menteurs, on ne raconte pas de vérité, de vrai. Moi, j'ai des exemples, tu as des exemples, on connaît, on voit toutes les réalités, on est dans cette lutte. Mais on dit, quand on arrive, quand on est mineur, on est pris directement en charge. Les enfants, ils vont croire à ça. Au final, s'ils voient le contraire, c'est parce que ça leur mettra encore beaucoup de confusion. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les enfants arrivent, on te dit, Bon, cette ville, elle n'est pas, elle n'accueille pas, elle ne va pas t'accepter, va dans cette ville. Les enfants continuent à marcher jusqu'à ce que d'autres en train de chercher ou de faire reconnaître leur minorité.
Avec Abou Bakar, on se dit bien que le fantasme des droits de l'homme et de l'accueil français ou européen, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de raison d'y croire. Mais on continue de se demander, qu'est-ce qui rend possible de traiter des jeunes personnes de cette manière ? Peut-être de refuser de les voir comme des enfants. Fatima Wasak, militante antiraciste, écrit qu'en France, les enfants issus de l'immigration sont désenfantisés, dans le sens où aux yeux de l'institution, ils ne sont pas perçus comme des enfants, mais comme des adultes problématiques en devenir. On leur fait comprendre qu'ils n'ont pas le droit à l'enfance. Nier l'enfance, c'est nier les droits qui lui sont relatifs. Refuser le statut d'enfant à quelqu'un, à quelqu'une, c'est le et la priver de la protection à laquelle les enfants ont droit.
Chaque enfant a le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé. Article de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Pourtant, les politiques liées à l'accueil et l'installation des étrangers et étrangères n'hésitent pas à rompre l'unité familiale. Le 28 octobre 2021, Mamadou Diarra sort faire ses courses. Il est malien, père de deux enfants de 3 et 20 mois nés en France. Il est arrêté ce jour-là, alors que sa femme et leurs deux enfants se trouvent dans leur nouvel hébergement attribué par le 115. Deux jours après son arrestation, un juge des libertés et de la détention ordonne qu'il soit relâché parce que le temps de sa garde à vue a été dépassé. Mais la préfecture de police de Paris fait appel et le maintient en détention. Mamadou Diarra est enfermé au centre de rétention administrative, CRA, de Vincennes, puis expulsé vers Bamako le mardi 14 décembre. Les CRA sont des lieux de détention pour les personnes qui n'ont pas d'autorisation de séjour sur le territoire français. En d'autres mots, ce sont des prisons. À aucun moment lors du contrôle, de la garde à vue, de la rétention ou de l'expulsion de Mamadou Diarra, la question des enfants et de leur bien-être n'est posée, ni ne pèse dans la balance.
Le déni d'enfance passe aussi par l'enfermement. Et là encore, la France est tristement à la pointe. Depuis 2012, elle a été condamnée 8 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir enfermé des familles avec enfants dans des CRA. Mais comme réaction à ces condamnations, la France a choisi en 2016 de modifier sa loi pour habiliter les CRA à recevoir des familles, avec par exemple l'obligation de lieux d'hébergement dotés de matériel de puériculture. Alors voilà, au lieu d'arrêter d'enfermer les enfants, l'État français adapte ses prisons. On peut souligner qu'en juin 2018, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a préconisé l'interdiction pure et simple de l'enfermement des enfants. Et on se dit que c'est quand même hallucinant. Toute cette énergie dépensée à trouver des astuces pour enfermer des gamins, au lieu par exemple de fournir des conditions dignes et décentes d'hébergement. Parce que malheureusement, sans surprise, en France, l'obligation légale à l'hébergement pour les mineurs n'est pas respectée.
Communiqué des jeunes occupants de l'église Saint-Féréol, novembre 2017. Nous sommes un collectif de mineurs étrangers isolés et nous occupons l'église Saint-Féréol sur le Vieux-Port à Marseille pour rendre visibles nos difficultés. Nous avons fait des démarches qui nous permettent légalement d'être hébergés, mais nous dormons dans la rue. Nous cherchons à faire valoir nos droits et des réseaux de solidarité en attendant que la loi soit respectée. Nous voulons de vraies solutions. Nous ne voulons pas de quelques nuits à l'hôtel et ensuite dehors et ça recommence. Nous voulons de vraies places en foyer avec des éducateurs qui nous aident, un accès aux soins et à la scolarité. Nous avons besoin de lutter, c'est très important car chaque nuit dehors est de plus en plus dure. Nous occupons cette église dans l'attente d'une vraie solution.
3 ans plus tard, les autorités publiques ne répondent toujours pas aux besoins d'hébergement des mineurs. Et ce sont des réseaux de solidarité citoyens qui organisent et proposent des solutions temporaires.
Novembre 2021.
Nous cherchons un notre lieu d'hébergement pour Amadou, est saturé. Ado gambien 9 de
nouveaux
17
minots
ans,
isolés étrangers se sont présentés hier.
Nous avons la loi demande une mise à l'abri immédiate. Et pour une semaine,
à notre collègue scolaire, les délais de 16
ans jusqu'au mois de juin n'est arrivé depuis une semaine
à tous et toutes. Nous cherchons un hébergement
de son trajet qui vient de
prendre fin. C'est un jeune garçon de 16 ans. Il est arrivé la semaine dernière à Marseille. Si vous avez un lit à lui proposer, vous pouvez contacter elle.
En France, les mineurs sont censés être protégés par la loi et par ses instances. Une mineure étrangère n'est pas expulsable. Un mineur n'est pas dans l'obligation d'avoir des papiers. À l'arrivée en France, quand un mineur isolé déclare son âge, il doit passer une sorte d'entretien qu'on appelle une évaluation de minorité. Bien que dans la majorité des cas, ces jeunes présentent des documents d'état civil de leur pays d'origine, l'administration française met quasi systématiquement leurs déclarations et documents en doute. Le juge qui examine et statue sur la minorité d'un jeune peut aussi demander une évaluation médicale par le biais des tests osseux, dont la marge d'erreur est quand même de 18 mois, ou alors au moyen d'une évaluation sociale. Sonia, jeune diplômée en psychologie, nous a raconté son entretien d'embauche au sein de la direction Enfance-Famille du département du Rhône. Pendant l'entretien, on lui a expliqué que le travail consistait principalement à déterminer si une personne était mineure ou si elle mentait. Sonia a répondu naturellement qu'elle ne pouvait pas faire cela, a évoqué le code de déontologie et le fait qu'on lui avait toujours dit qu'elle n'était pas là pour distinguer le vrai du faux et que même si elle le voulait, elle ne pourrait pas le faire. Travailleuse sociale ou psy, souvent très jeune, juste diplômée, se retrouvent à candidater à ces postes pour leur premier emploi et sont mises dans la position de déterminer si une enfant ment ou pas, en partant du principe, tout de même, qu'elle ment. Le principe est imparable. Si l'enfant n'est pas un enfant, il n'a plus besoin de protection. Selon la Ligue des droits de l'homme, une personne sur deux qui se déclare mineure à son arrivée en France n'est pas reconnue mineure par l'administration française.
En général, on sait que la société remet en question la parole des plus jeunes. La récente libération de la parole sur l'inceste nous a montré à quel point les adultes et les institutions violentent les enfants, puis les accusent de mensonges. Ce double mécanisme, violenté et silencié, est connu. C'est celui de la domination, ici, de la domination adulte. Pour les jeunes exilés, il se passe quelque chose de plus. D'un côté, on les soumet à cette présomption de mensonge, et d'un autre, on leur demande énormément, beaucoup trop. Notamment parce que bien souvent, les enfants apprennent plus rapidement que les adultes qui les entourent. On a eu envie d'aller interroger Fatima Sissani, la réalisatrice de La langue de Zara, un film sur le rapport que sa mère, une femme kabyle, entretient avec sa langue. On s'est dit qu'elle aurait des choses à nous raconter, en tant qu'ancienne enfant, arrivée en France avec ses parents et ses frères et sœurs.
C'est sûr que pour nous, l'immigration, ça n'a pas toujours été très simple, puisque mon père parlait le français, mais maîtrisait pas du tout l'écrit ni les codes d'expression dans ce pays. Et ma mère, elle avait carrément décidé de pas apprendre le français. Donc très tôt, en fait, on a appris, évidemment, comme pas mal d'enfants, quoi. On a appris très vite le français. Et très vite, on a pris tout en charge. Ma sœur, ma grande sœur, elle, au début, c'est elle qui traduisait les mots de l'école, qui allait à l'école avec ma mère quand il fallait aller voir les enseignants ou quand elle était convoquée parce que l'une ou l'un de nous avait fait une connerie. C'est quand même un peu bizarre. Et je me souviens aussi qu'en fait, voilà, la considération que les profs avaient pour nous, elle était évidemment beaucoup moins importante parce que justement, nos parents, à leurs yeux, nos parents jouaient pas du tout leur rôle de parents. On allait chez le médecin avec ma mère pour traduire ce que disait le médecin. À la banque, c'était pareil. Je me souviens même que ma mère, elle se présentait à des boulots pour faire le ménage ou garder des gamins. Et on allait avec elle pour traduire. Donc forcément, ça faisait pas très sérieux tout ça. Et je me souviens, ma mère, à chaque fois qu'elle entendait qu'il y avait des gens qui venaient d'emménager dans l'immeuble, eh ben, elle nous demandait d'aller les voir pour voir s'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un pour garder les gamins ou faire le ménage. Moi, ça me foutait tellement la honte. J'avais pas du tout envie de faire ça et parfois je l'ai pas fait. Ça veut dire que nous aussi, pour le moindre truc, c'est le moindre chose dont on avait besoin, un rendez-vous chez le médecin ou ailleurs, c'était nous qui prenions le rendez-vous pour nous. Et donc, on devait se prendre en charge. Ma grande sœur, je m'en rends compte aujourd'hui, elle a tellement assumé deux choses pour nous, quoi. Et après, bon, moi, j'ai aussi pris la relève. J'ai énormément surveillé mes sœurs pour l'école, y compris, voilà, de poser parfois des interdictions. Par exemple, je me souviens, ma sœur, quand elle, à un moment, je trouvais qu'elle déconnait un peu trop, je lui ai interdit de sortir, ou je laissais pas ma sœur écouter de la musique quand elle faisait ses devoirs. Enfin, voilà. Donc, du coup, des rôles pas toujours clairs. Et je pense, parfois, on a joué, oui, le rôle de parent et le parent de nos frères et sœurs et... parents de nos parents et qu'après c'est très compliqué en fait de remettre chacun à sa place. Pourtant c'est absolument nécessaire, mais c'était compliqué. Ça nous a apporté pas mal, hein. Moi ça m'a vraiment apporté énormément d'autonomie, quoi. J'ai acquis énormément d'autonomie, mais je me rends compte c'était quand même hyper lourd, quoi. Et je pense d'une fatigue, quoi, et d'une fatigue qui est aussi maintenant encore là, voilà, d'avoir trop tôt, trop de choses à assumer.
On est très touchés en entendant la fatigue accumulée par le travail invisible des enfants exilés. Une fatigue qui peut être doublée par l'exposition au récit des violences et abus subis par leurs parents. Dans le cadre des demandes d'asile, les jeunes exilés doivent parfois traduire des récits très durs, argumenter en faveur de leurs parents, les défendre. Très loin d'être protégés de la violence institutionnelle, les enfants ont souvent tendance à être exploités par les administrations françaises comme main-d'œuvre gratuite.
On aurait bien aimé que finalement, voilà, l'administration, l'école, enfin, tout un tas de gens prennent acte de ça et finalement soient là aussi en soulagement des enfants, sans culpabiliser les parents de ne pas savoir parler le français ou d'avoir immigré. Mais non, voilà, tout le monde a regardé les choses se faire, une situation complètement anormale se dérouler, et sans jamais se dire mais comment on pourrait faire autrement.
Ça comptait beaucoup pour nous de faire cette émission, mais ça n'a pas été que facile. Alors, pour terminer, on avait envie de partager les mots d'Abou Bakar et l'importance des luttes dans sa vie.
Moi, j'ai lutté beaucoup pour mes amis qui sont... Quand on était en Allemagne, et on a beaucoup participé. Moi, je suis arrivé dans un foyer où les choses étaient bordéliques, les choses ne marchaient pas tellement. Les enfants qu'on avait trouvés, les mineurs qu'on avait trouvés, ils avaient peur. Lutter, c'est bien, il faudra continuer à lutter. Moi, j'aime lutter. J'ai lutté contre mon propre père, ma propre famille. Je ne vais pas arrêter de lutter, mais... Parce que la lutte, c'est, au final, c'est les personnes concernées qui doivent prendre les vraies décisions, les bonnes décisions pour ne pas se faire avoir à la fin.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cette chronique avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité vers les trois de Ellie Blue, qui avaient 15, 16 et 19 ans quand ils ont fait le choix de la lutte plutôt que du retour en Libye et qui sont toujours accusés d'avoir détourné un bateau. Ils encourent 30 ans de prison pour avoir fait respecter leurs droits et avoir servi de traducteur aux 105 autres personnes à bord du bateau avec eux lors de la traversée. Des pensées de solidarité vers toutes les enfants qui grandissent dans des pays qui les font se sentir en trop, pas bienvenus, trop ceci ou trop cela et jamais comme il faudrait. Ce n'est ni juste, ni de votre faute. Des pensées vers toutes celles et ceux dont on ne soupçonne pas les histoires de vie et qu'on croise tous les jours, comme si de rien n'était. Des pensées de solidarité et un immense respect pour celles et ceux qui vivent malgré la fatigue. On est impressionné par tout le travail qu'il faut pour se fabriquer une existence dans un merdier pareil. Des pensées, encore et toujours, pour tous les enfants qui arrivent, toutes celles qui partent, pour celles et ceux qui traversent, encore aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui nous ont fait des retours, qui l'ont diffusée, qui y ont participé. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarm Phone et les traversées des frontières européennes, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarm Phone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique amère. Et en attendant, main sur le cœur et poing levé.
Spect.